non ce qu'il connaît par sa science de sainte intelligence, mais par suite Dieu sait en lui, par suite Dieu sait en lui-même plus de choses que l'âme du Christ. Pas de difficulté. Troisième objection. Le degré d'une science se mesure au nombre de choses à connaître. Si donc l'âme du Christ connaît dans le Verbe tout ce que connaît le Verbe lui-même, sa science serait égale à la science divine, le créé se mesurerait à l'infini, ce qui est impossible. C'est garder la distance du créé et l'infini. C'est là. Le degré de la science ne se mesure pas seulement au nombre des choses sues, ça c'est pour les examens, mais aussi à la clarté avec laquelle on les connaît. C'est pour la mention. La clarté, la manière dont on le dit. Aussi bien que la science du Christ dans le Verbe équivale celle de Dieu sous le rapport de nombre de choses vues, sues. Cependant, celle de Dieu la dépasse infiniment sous le rapport de la clarté, de la compréhension. Car la lumière incréée de la divine intelligence surpasse à l'infini la lumière créée, reçue par l'âme du Christ, ce qui n'empêche pas que la science divine, absolument parlant, de dépasser celle du Christ, même sous le rapport du nombre des choses connues. Vous avez bien compris. Oui, c'est à cause de ça. Pour les... Radicalement. Je crois que c'est à cause de la limite, c'est que l'âme est créée. C'est toujours le raisonnement de Saint-Thomas, c'est du créé qui est limité par rapport à la limite. C'est le raisonnement. Donc, ce qui est créé directement, c'est l'âme. Et c'est pour ça qu'il prend l'âme. Vous voyez ? Parce que l'intelligence a quelque chose d'infini. Le raisonnement ne se dirait pas, c'est pour ça que s'il prend l'intelligence ou la grâce, elle a quelque chose d'infini. Tandis que l'âme, tout de suite, c'est créé, c'est ce qui est créé. Et c'est le raisonnement porte sur le point de vue de la créature comme telle qui n'est jamais adéquate. L'âme du Christ connaît-elle dans le Verbe une infinité de choses? Il suscite simplement quand même une espèce d'analyse la plus poussée qu'il peut pour essayer de voir dans sa foi adhérer à cette vision béatifique de Dieu. L'âme du Christ connaît toute sa puissance et tout ce à quoi cette puissance s'étend. Or, elle peut nous purifier d'une infinité de péchés. Selon cette parole de saint Jean, il est lui-même une victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. L'âme du Christ connaît donc une infinité de choses. C'est toujours sa fonction de roi, le rôle de Jésus comme tête. Il n'y a de science que de l'être, car l'être et le vrai sont convertis. Scientia non est nisi entis. Ça, c'est bondir, ça. Ça ne veut pas bondir, vous. Scientia non est nisi entis. Donc, celle de la métaphysique. Une seule science, la métaphysique, tout le reste, hein. Pas grand-chose. Une seule science, deux sciences métaphysiques. Les mathématiques, pas grand-chose. Parce que non est scientia entis. La physique, hein, la biologie, tout ça. Ouais, ou c'est accidentel. C'est très accidentel, pas grand-chose. C'est second. Scientia, ça c'est du saint Thomas pur. Hein. Scientia, je comprends qu'un moderne qui tombe là-dessus. Scientia nanes nisi entis. Vite. L'obscurantisme du Moyen-Âge. Il n'y a de science que de l'être, car l'être et le vrai sont convertibles. Cependant, on donne à une chose le nom d'être d'une double manière. Ouais, alors ça, saint Thomas normand se rattrape. Alors il faut se rattraper. Toujours là. Il aurait pu dire ça avant, il dira après l'autre. Non, j'ai dit d'abord l'affirmation forte. Cependant, on donne à une chose le nom d'être d'une double manière. D'une manière absolue, il s'agit d'un être en acte. D'une manière relative, il s'agit d'un être en puissance ou accidentel. C'est toujours les détails pour la cause. L'être est dit de multiples manières. Donc il n'y a de science de l'être, mais l'être est dit de multiples manières. Et comme l'être est dit de multiples manières, analogiquement, vous avez toute petite poussière de science qui se rattache à la science substantielle, la métaphysique. Vous voyez bien ce plaidoyer qu'on pourrait faire. Et comme, d'autre part, ainsi qu'il est dit dans les métaphysiques, rien n'est connu qu'autant qu'il est en acte et non en puissance. Il s'ensuit que l'objet premier et principal de la science, c'est l'être en acte. Seul celui qui connaît l'acte, c'est un scientifique. Là, c'est dit avec force. Hein. Rien n'est connu qu'autant qu'il est en acte et non en puissance. Il s'ensuit que l'objet premier et principal de la science, c'est l'être en acte. Son objet second, c'est l'être en puissance. L'être en accident. Tous les accidents. Ce dernier, à vrai dire, n'est pas connaissable en lui-même. Il ne l'est que par l'être en la puissance duquel il existe. Ça, c'est équivoque. Il est en référence à l'être, hein, j'aime mieux dire ça. Dès lors, en ce qui regarde le premier mode de connaissance, l'âme du Christ ne connaît pas une infinité de choses, car cette infinité ne se trouve jamais réalisée en acte, même si l'on considère tout ce qui existe en acte en quelque temps que ce soit. Alors là, il y a des positions diverses dans un moment. Hein. C'est très curieux. Ici, c'est très net. Hein. C'est l'être en acte. L'être en acte comme tel, c'est l'être créé. Nécessairement, les êtres créés sont mesurés par Dieu. Donc, ils sont limités. L'état des choses qui sont soumises à la génération et à la corruption, en effet, ne dure pas indéfiniment. En sorte qu'il y a un nombre limité, non seulement de réalité inengendrée et incorruptible, mais même de réalité soumise à la génération des corruptions. Pour ce qui est du second mode de connaissance, il faut reconnaître que l'âme du Christ connaît dans le Verbe une infinité de choses. Elle connaît en effet, ainsi que nous l'avons dit, tout ce qui se trouve dans la puissance de la créature, et comme dans la puissance de la créature il y a une infinité de choses, elle peut donc sous ce rapport atteindre l'infini. Par la science de simple intelligence, pour ainsi dire, et non par la science de vie. Hein? Vous voyez bien là, ce que saint Thomas souligne ici, n'est-ce pas ? Avec cette affirmation très nette que la science, toute la science regarde l'être en acte. En premier lieu. En second lieu, la puissance. Mais il n'y a de véritable science que la science de l'être en acte. Et toutes les autres sciences sont intelligibles en fonction de l'être en acte.
L'autre position de saint Thomas, c'est la question de tous. Il connaît les infinis, c'est un acte.
Alors, il a soutenu des questions diverses. Je dirais, il y a une question de mémoire là, c'est intéressant de voir et de chercher là la question de la connaissance des infinis chez saint Thomas. Et peut-il y avoir une infinité de réalité, hein, d'habitude ça, aussi,
hein, c'est dans la science de Dieu.
La science de Dieu.
Est-ce que là, il n'y a pas un infini? Un infini au sens où il n'y a aucune limite du côté de celui qui connaît? Alors que la réalité connue, elle est infinie.
C'est la question de savoir le nombre. Maritain a repris ça, du reste aussi. C'est des questions très délicates. Est-ce que ça a vraiment changé? Il le dit. Dans les sentences, il est beaucoup, beaucoup plus. C'est une autre position. On ne va pas entrer dedans. C'est assez délicat. Alors, ici, c'est net, hein, c'est très très net. Et j'aime bien ce caractère extrêmement net de saint Thomas, que les êtres créés sont nécessairement limités. Les êtres en acte sont nécessairement limités. Et on comprend très bien, puisque tout est mesuré par la sagesse de Dieu. Alors, tout ce qui est mesuré est limité. Donc, tous les êtres créés sont limités. Il y a un nombre limité d'êtres créés. Ils ne sont pas infinis, les êtres créés. Donc, la science connaît ces êtres en tant qu'ils sont en acte. Mais il peut y avoir, alors, du côté de la créature, alors, du côté de l'intelligence de la créature, qui peut connaître des grandes choses. Là, en puissance. La science de Dieu, la science du Christ connaît cette infinité de choses. Voyons tout de suite la première objection. Que l'infini, c'est toujours quand on touche l'infini. L'infini représente dans l'étude de saint Thomas toute une piste extrêmement intéressante. Très difficile et intéressante à voir, hein, comment saint Thomas s'est attardé à l'infini. Alors, que l'infini soit objet de connaissance, cela répugne à sa notion même, car ainsi que l'observe Aristote, l'infini suppose une grandeur qui dépasse toujours la considération que l'on peut en prendre. Or, il est impossible d'enlever à un objet sa définition, ce qui vaudrait à admettre la possibilité simultanée de deux propositions contradictoires. Il nous se peut donc que l'âme du Christ connaisse une infinité de choses. Que l'infini comme tel n'est pas mesurable. Or, la connaissance est déterminée, donc la connaissance n'est pas l'infini. Alors, répondre aux adorants. L'infini, ainsi que nous l'avons dit dans la première partie, revêt un double aspect. Ça, c'est très intéressant et c'est capital de bien comprendre cela. C'est là où saint Thomas ajoute quelque chose à Aristote. C'est lui, quand saint Thomas ajoute quelque chose à Aristote. Et là, il ajoute quelque chose à Aristote, de façon très très nette. Hein. Pour l'infini, il y a deux conceptions, la conception aristotélicienne et celle de saint Thomas. Pour la question du bien, saint Thomas ajoute aussi quelque chose. Du côté de l'être, il n'ajoute pas grand-chose. C'est pour ça que c'est la même métaphysique, c'est la connaissance de l'être en acte. Tandis que l'infini, ça, c'est différent. L'infini, ainsi que donc deux manières de regarder, revient un double aspect. Selon qu'on le considère du point de vue de la forme, ou du point de vue de la matière. Donc, Aristote aurait pu faire ça. L'application de la distinction matière et forme. Ça, vous retrouvez cela dans l'article où saint Thomas se pose la question « La manière d'être de Dieu est-elle infinie ?» La manière d'exister de Dieu est-elle infinie ? Saint Thomas montre qu'il y a un infini qu'on ne peut pas attribuer à Dieu. C'est un infini privatif, mais l'infini négatif, on peut l'attribuer à Dieu. Parce que lui, il présuppose une autre. Alors ici, il le prend un petit peu différemment, hein, du point de vue de la forme ou du point de vue de la matière. Dans le premier sens, on appelle un infini négatif, il signifie que la forme ou l'acte n'est pas limité par la matière, ou le sujet en lequel il est reçu. Un tel infini de soi est parfaitement connaissable en raison même de la perfection de l'acte, bien qu'il ne soit pas compréhensible par la puissance finie de la créature. C'est de cette manière que nous disons que Dieu est infini. Cet infini, l'âme du Christ le connaît, sans pourtant le comprendre. Un autre point de vue, on parle d'infini sous le rapport de la matière. C'est un infini privatif, car il ne possède pas la forme, et parce qu'il ne possède pas la forme qu'il est apte à recevoir. Ainsi, l'infini qui se rapporte à la quantité. Un tel infini n'est pas de soi objet de connaissance, car il est comme une matière privée de sa forme, ainsi qu'il est dit dans la physique. Or, la connaissance n'est possible que par la forme ou l'acte. Connaître cet infini selon le mode qui lui est propre est donc impossible, car ce mode suppose que l'on considère les parties l'une après l'autre, comme il est dit encore dans les physiques. En ce sens, il est très vrai que l'infini est une grandeur qui dépasse toujours la considération que l'on peut en prendre, puisqu'on ne peut l'envisager que partie par partie. Mais de même que les réalités matérielles peuvent être appréhendées par l'intelligence d'une manière immatérielle et que le multiple peut être appréhendé sous le mode de l'un, de même, une infinité de choses peut être saisie par l'intelligence, non pas sous le mode de l'infinité, mais pour ainsi dire, d'une manière finie. De cette façon, des réalités infinies en soi deviennent finies dans l'intelligence de celui qui les connaît. Et c'est ainsi que l'âme du Christ connaît une infinité de choses, non pas en les considérant les unes après les autres, mais en les envisageant dans une réalité unique, dans une créature, par exemple, en la puissance de laquelle se trouve une infinité de choses, et surtout dans le Verbe lui-même. Donc, voyez, saint Thomas, là, reprend une distinction qu'il a forgée lui-même, et qui est très intéressant pour connaître ce que c'est que l'infini. Aristote avait vu qu'une seule chose, l'infini. L'infini du côté, la quantité, c'est-à-dire l'infini, ce qui manque de limites. Un tel infini est inconnaissable. Il n'a pas de limite, il n'a pas de forme. Donc c'est l'infini privatif. L'infini privatif, c'est que je suis celui qui manque de forme. Donc c'est l'infini par rapport à la matière. C'est l'infini de la quantité. Je peux diviser indéfiniment la quantité. C'est le divisible pur. Donc je peux le diviser tout le temps. Et puis l'infini négatif, peut-être la forme, celui qui, de fait, n'est pas reçu. C'est la forme non reçue. La forme non reçue est infinie. Elle n'a pas de limite. Fameux exemple de la blancheur. Le blanc du mur est reçu, mais la blancheur n'est pas reçue.
Oui. Aristote aurait pu parler d'un infini négatif qu'après en vision de sagesse, parce qu'on peut en parler avant.
Ah !
Est-ce qu'on peut en parler avant ? Parce que le problème, est-ce qu'il se pose avant d'avoir découvert une forme occulte ?
On peut se poser une forme abstraite. Aristote a saisi la blancheur avant de saisir la forme de sagesse.
Mais c'est pas inexistant.
Ah, ça ne veut rien. L'abstraction. Vous voyez,
oui.
Je peux voir le fait même, l'appliquer. Alors, le point de vue est évident, la vision de sagesse fermée. Vous voyez, c'est antérieur à la vision de sagesse, puisqu'il s'agit d'expliquer maintenant l'infini de Dieu. Je ne peux pas avoir la vision de sagesse. Donc, j'ai déjà la notion de cet infini du côté de la forme et du côté de la matière. C'est parce qu'Aristote reste trop fixé à l'infini du côté quantitatif. Et saint Thomas ramène l'infini à la matière, pas à la quantité, à la matière, à la forme. Oui.
La question de l'infini se pose à quel moment ?
quel moment ça peut se poser ? Ça peut se poser dès que vous parlez en philosophie de la nature, de l'infini, vous pouvez à ce moment-là dire l'infini quantitatif se fonde sur la matière et il implique une privation. Y a-t-il possibilité de concevoir l'infini autrement ? Et vous dites à ce moment-là, mais oui, il y a possibilité de le concevoir autrement, négativement. C'est-à-dire une forme non reçue. Une forme non reçue est infinie. Qu'est-ce qui contracte la forme ? C'est la forme d'être. C'est du fait qu'elle est reçue. Si elle n'est non reçue, elle n'est pas contractée. C'est
du platonisme,
ça. Non, parce que le platonisme consiste à oublier que c'est une abstraction et que ça existe. Vous voyez ? Ce que dit toujours saint Thomas, c'est le mode abstrait n'est pas vu, distingue de la mode du mode réel, et c'est dans ce sens-là qu'on tombe dans le platonisme. Mais je peux très bien comprendre que, de fait, une forme, c'est parce qu'elle est reçue qu'elle est limitée. En elle-même, elle ne l'implique pas. Oui.
Je dirais beaucoup plus que si je le lis immédiatement à une vision de sagesse, c'est là beaucoup plus un platonisme.
Ça dépend, ça dépend, parce que oui, c'est-à-dire que si on dit que ce n'est que par une vision de sagesse.
Parce que ça sera beaucoup plus un platonisme, parce que ça leur attacherait à
des formes. Ça attache à Dieu, c'est ça que je veux dire. C'est dit, le cas se pose, par exemple, et le cas se pose éminemment pour l'essai. C'est sûr. Mais l'essai peut se poser avant. C'est pas laisser participer, mais c'est laisser limiter. C'était la participation, ce que nous disons de sagesse uniquement. Mais vous voyez, c'est pas lié à la participation, c'est lié matière et forme, comme dit saint Thomas. Et ça, je crois que c'est très juste.
Complètement. La blancheur, il reste toujours un peu une puissance.
C'est la blancheur. En soi, la blancheur n'est pas limitée. La blancheur en soi. Je ne dis pas qu'elle existe, je dis qu'elle n'est pas limitée. C'est la chose. L'essai en soi n'est pas limité. C'est du reste comme ça, grâce à ça, que de fait je vais remonter jusqu'à lui. Si l'essai n'était pas limité, limité en soi, je pourrais le
croire. Dès le point de vue de la série d'être en acte, je peux poser des questions et je pense que c'est
en puissance en acte. Alors, seconde objection. La science d'une infinité de choses est-elle infinie ? Ça, c'est la fameuse chose toujours. C'est extrêmement. Vous voyez, c'est la commission de la vie. La logique qui connaît un être de raison est-elle un être de raison ? C'est la fameuse objection de tout. La logique, bon, une connaissance qui connaît un être de raison n'est-elle pas elle-même un être de raison ? Parce que elle est spécifiée par un être de raison. Mais c'est du même acabit que ça. La science d'une infinité de choses est elle-même infinie. Or, la science de l'âme du Christ ne peut être infinie puisqu'elle est créée. Elle comporte nécessairement des limites. L'âme du Christ ne peut pas connaître une infinité de choses. Vous voyez tout de suite l'erreur, hein ? Confusion entre l'intentionnalité et l'existence. C'est très très joli. Ce sont ces petites objections-là qui sont très intéressantes parce que c'est ça qui nous permet de sortir de la critique, vous voyez, et de voir la différence entre les deux. Rien n'empêche, répond Saint Thomas, rien n'empêche qu'une réalité soit infinie sous un certain apport et fini dans un autre. Ainsi, nous pouvons imaginer dans l'ordre de la quantité, toujours, on imagine dans l'ordre de la quantité, ainsi nous pouvons imaginer dans l'ordre de la quantité une surface infinie en longueur et finie en largeur. Ainsi encore, des hommes qui seraient en nombre infini posséderaient une infinité relative à la multitude et n'en demeureraient pas moins finis dans leur essence, car l'essence de tous les êtres est limitée par l'unité de spécification. Seul Dieu est infini absolument, sous le rapport de son essence, ainsi qu'il a été dit dans la première partie. Ça, c'est très très beau, c'est une des aspects les plus... Je crois que c'est propre à saint Thomas d'avoir découvert ça. Que l'infini regarde l'essence de Dieu, et donc, je peux aller jusque-là, l'infini regarde l'essence de Dieu. Parce que, selon l'Écriture, l'infini touche toujours, la science de Dieu est infinie, la puissance de Dieu est infinie. Vous voyez, c'est toujours par un autre attribut. Et saint Thomas a eu cette audace théologique de ramener l'infini à l'être de Dieu.
À cause de la simplicité.
Oui. Par la simplicité. Comme conséquence de la simplicité. Et grâce à la simplicité. L'être de Dieu, il est sous l'essai, sous le saint. Donc il est infini, parce que l'essai de Dieu n'est pas reçu. Donc il est infini. Donc, vous voyez, c'est toujours la blancheur. C'est la blancheur qui lui permet de dire ça. Or, l'objet propre de l'intelligence est la quiddité à laquelle appartient la notion de spécification. Vous voyez, c'est toujours ces affirmations de saint Thomas qui sont très belles, hein, pas commodes toujours à comprendre. Primum autem objectum intellectus est quod quid est, ut dicitur in tertio de anima, sed quod pertinet ratio specie. Proprium objectum. Or, l'objet propre de l'intelligence est la quiddité à laquelle appartient la notion de spécification. Dès lors, l'âme du Christ, ayant une capacité finie, peut bien atteindre, certes, en son essence, ce qui est infini absolument, mais elle ne peut le comprendre. Au contraire, l'infini qui se trouve en puissance dans la créature peut être objet de compréhension pour l'âme du Christ. Car cet infini, elle l'atteint par le moyen de l'essence, et sous ce rapport, la créature n'est pas infinie. D'ailleurs, même notre nature, même notre intelligence, atteint bien l'universel tel que la nature du genre ou de l'espèce. Et d'une certaine manière, cet universel est infini, puisqu'il peut être attribué à une infinité d'individus. Donc une intelligence créée peut atteindre l'infini. Une science créée peut atteindre l'infini. Ah, vous voyez bien le sophisme, hein, c'est de considérer le point de vue, la science... l'objection du début, quoi. Cette objection qui vous met. Ce sont ces très grosses objections, quand on les lance à la tête des gens, les gens dans ces objections-là ne savent plus quoi dire. Là, alors, la science d'une infinité de choses est elle-même infinie. La science d'une infinité de choses est elle-même infinie. La science peut être finie tout en étant une science d'une infinité de choses. Et elle est finie. Alors, troisième objection. D'ailleurs, il ne peut y avoir de rien de plus grand que l'infini. Ça, c'est aussi très bien. Rien de plus grand que l'infini. Mais la science divine embrasse absolument parlant beaucoup plus de choses que la science du Christ. Ainsi que nous l'avons précédemment dit. L'âme du Christ ne connaît donc pas l'infini. Une infinité de choses. On peut passer un examen pour la science du Christ pour montrer qu'elle n'est pas infinie. Alors, passer un examen à la science du Christ. Alors, qui répond ? Ce qui est infini de toute manière ne peut être qu'un. Ce qui est infini de toute manière ne peut être qu'un. Or, ce qui est infini de toute manière, c'est l'infini qui touche l'être, l'essai. L'infini qui touche l'essai, c'est l'ipsum, c'est subsistens. C'est-à-dire un essai non reçu. Un essai non reçu est infini. Ça, c'est l'infini de l'être de Dieu. Ce qui est infini de toute manière ne peut être qu'un. Vous voyez, c'est assez joli, ça. Simplicité, infini, unité. Et saint Thomas le montre bien, là. Vous voyez, l'ipsum esse subsistens, ça c'est la simplicité. Parce que Dieu est absolument simple, il est infini. Et parce qu'il est infini, il n'est pas. Raisonnement, c'est, je vous lis ce que saint Thomas nous dit là. Ce qui est infini de toute manière ne peut être qu'un. C'est pourquoi le philosophe observe que le corps étant soumis à la dimension dans toutes ses parties, il est impossible qu'il y ait plusieurs corps infinis. Ah, il serait tellement grand. Vous voyez, imagine un corps infini. C'est monstrueux. Il est tellement gonflé alors il est impossible qu'il y ait plusieurs corps infinis, mais si une chose est infinie en un sens seulement, rien n'empêche qu'il y ait plusieurs choses infinies. Ainsi, l'on peut concevoir plusieurs lignes infinies en longueur, tracées sur une surface finie en largeur. Alors, réalisez ça. Étant donné, d'autre part, que l'infini dans les choses n'est pas une substance mais un accident, ainsi qu'il est dit dans la physique, en même temps que se multiplie l'infini d'après ses divers sujets, se multiplient aussi les propriétés de l'infini, c'est-à-dire que ces propriétés lui conviennent en chacun des sujets qui le possèdent. Or, c'est une des propriétés de l'infini qu'il n'y ait rien de plus grand que lui. Dès lors, si nous considérons une ligne infinie, il n'y a rien en elle de plus grand que l'infini. De même, si nous considérons l'une quelconque des autres lignes infinies, il est manifeste qu'en chacune d'elles, les parties sont une infinité. Il faut donc que, dans une ligne donnée, il n'y ait rien de plus grand que l'infinité de toutes ses parties. Pourtant, dans une autre ligne, dans une troisième, il pourra y avoir une infinité plus grande de parties. C'est ce que l'on peut constater encore pour les nombres. Les nombres pairs constituent une infinité, et de même les nombres impairs. Et cependant, les nombres pairs et impairs forment ensemble une infinité plus grande que les nombres pairs. Concluant donc... Oui, il s'amuse, hein. Concluant donc... C'est quand saint Thomas fait de la géométrie, de l'arithmétique, c'est très très amusant. Parce qu'il l'a fait au nom de la métaphysique. Alors ça va très bien. Concluons donc que s'il s'agit d'une infinité, d'un infini pur et simple, et en toutes ses parties, il n'y a rien de plus grand que lui. Mais s'il s'agit d'un infini relatif, il n'y a pas sans doute de plus grand que lui dans cet ordre. Pourtant, dans un autre ordre, il peut y avoir plus grand que lui. Sous ce rapport, les choses qui sont en la puissance de la créature constituent une infinité. Et cependant, il y a plus de choses dans la puissance de Dieu que dans la puissance de la créature. Ainsi, l'âme du Christ connaît-elle une infinité de choses par science de simple intelligence. Et Dieu, néanmoins, par ce même mode de science, en connaît davantage. Au fond, c'est pour montrer, vous voyez, qu'on peut affirmer en même temps que la science du Christ est infinie et que cependant est inférieure à cet objet. Parce qu'on peut être infini sous un aspect et par le fait même faire que parlant soit relatif à un autre. La science du Christ est infinie tout en étant relative à celle de Dieu. On peut être relatif tout en étant infini. Parce que qui dit relatif dit limite. dit dépendance. Qui dit infini dit non-limite. Vous voyez la contradiction. Donc vous ne pouvez pas être en même temps fini et non fini. Fini et infini. Vous ne pouvez pas l'être. Mais vous pouvez l'être sous deux rapports différents. Donc c'est pas contraire. Or, l'infini peut se concevoir sous deux rapports différents. Donc, c'est pas contraire. Jeu, quoi. Oui.
Est-ce que ça se fonde immédiatement sur la diversité dans laquelle l'être se...
Oui, oui. Tout à fait, tout à fait.
Il aurait pu l'être tout simplement.
Non, parce que... Alors, oui, c'est, ça, ils s'amusent. Je vous ai dit de façon extrêmement simple. Et contradictoire quand on est sous le même rapport et de la même façon... affirme et négatif. Or, l'infini peut se dire de deux manières, donc il n'y a plus de contradiction. Tout simplement. Et il s'amuse, je dis. Et on voit très bien, il est Dieu. Alors, l'article 4. L'âme du Christ est-elle, l'âme du Christ voit-elle le Verbe ou l'essence divine plus clairement que toutes les autres créatures? Là, c'est facile à comprendre. L'apôtre écrit aux Éphésiens, Dieu a fait asseoir le Christ à sa droite, dans les cieux, au-dessus de toute principauté de puissance, vertu, domination, et de tout nom, quel qu'il soit, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Or, plus un élu se trouve élevé dans la gloire céleste, plus il voit Dieu parfaitement. L'âme du Christ voit donc Dieu plus parfaitement que toute autre créature. Vertu, domination, puissance, principauté. Redécliner tout cas. Le corps de l'article. La vision de l'essence divine convient à tous les bienheureux dans la mesure de leur participation à la lumière qu'il avait communiquée par le Verbe de Dieu. Selon cette parole de l'Ecclésiastique, la source de la sagesse, c'est le Verbe de Dieu au plus haut des cieux. Or, l'âme du Christ, unie personnellement au Verbe, est plus proche de lui qu'aucune autre créature. Elle reçoit donc plus parfaitement qu'aucune autre la communication de la lumière en laquelle Dieu est vu par le Verbe. L'âme du Christ voit donc plus parfaitement que les autres créatures la vérité première qui est l'essence de Dieu. C'est pourquoi saint Jean écrit « Nous avons vu sa gloire comme celle du Fils unique du Père. Il était rempli non seulement de grâce, mais aussi de vérité. » Vous voyez ce résultat qu'on aurait appelé facilement à l'article premier. Et il arrive au dernier article. Il arrive non pas pour montrer la compréhension de Jésus par rapport à l'essence divine, mais pour montrer la perfection de la vision béatifique du Christ par rapport à toutes les autres créatures. C'est très très beau, ça. C'est là on voit que c'est composé d'une façon très très forte, ça. Parce que nous, on aurait spontanément mis le raisonnement de l'article 4 au début. Eh bien, c'était tombé un peu dans le panneau. Alors, voyons tout de suite, c'est facile à comprendre. Ça, c'est le raisonnement qu'on a vu à propos de la grâce. La grâce du Christ est plus parfaite que la grâce de tous les autres, de toutes les autres créatures. Il est le roi dans la grâce. La grâce du Christ, c'est une plénitude, donc il a la raison de grâce dans toute sa perfection. Et puisque la vision béatifique dépend de la perfection de la grâce, on comprend très bien que la vision béatifique du Christ est unique et qu'elle dépasse dans sa vision béatifique celle de tous les autres bienheureux. Alors, voyons tout de suite la première objection. La perfection de la connaissance se juge d'après le moyen de connaître. Or, la connaissance qui s'obtient par syllogisme démonstratif est plus parfaite que celle qui s'obtient par syllogisme dialectique. Mais tous les bienheureux voient immédiatement le Verbe par l'essence divine, ainsi que nous l'avons dit dans la première partie. L'âme du Christ ne voit donc pas le Verbe plus parfaitement que les autres créatures. Voir le Verbe, c'est indivisible, puisqu'il est indivisible. Donc, celui qui le voit parfaitement, ne peut pas avoir plus. La perfection de la connaissance en ce qui regarde l'objet connu se juge d'après le moyen de connaître, mais en ce qui regarde le sujet connaissant, elle se juge d'après la puissance ou l'habitus. De là vient que parmi les hommes qui usent d'un même moyen de connaître, les uns connaissent plus parfaitement que les autres, une même conclusion. L'être en acte est connu différemment de chacun d'entre nous, selon que notre puissance de connaître est plus grande, selon que notre habitus métaphysique est plus enraciné dans notre nous. Ainsi, l'âme du Christ, qui se trouve remplie d'une lumière plus abondante, connaît plus parfaitement l'essence divine que les autres bienheureux, bien que tous voient l'essence divine par elle-même. C'est l'heure. Alors, c'est à votre nom, non ? Ah, c'est le démarrage. Le démarrage, oui, mais à cause de la. De... Le Christ, à quelle heure ? Dans 5 minutes ?
Le fils est dans 10.
Dans 10 minutes ? Bon, alors, il faut peut-être mieux arrêter. On a terminé, du reste. On a terminé cette question. Et puis, on verra la fois prochaine la science infuse du Christ. On pèle assez vite. Une fois qu'on a compris, on voit tout de suite les ramifications.